Vous écoutez le Libre Journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 22 mai 2023, de midi à 13h30, réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Cette citation de Paul Valéry était rappelée il y a 4 ans devant l'Académie des sciences morales et politiques par un ancien chef d'état-major des armées, le général Bentejat, qui soulignait combien les crises contemporaines sont devenues largement indéchiffrables pour nos sociétés démocratiques, nourries de schémas simples et manichéens, et n'étant plus perçues par le plus grand nombre que sous l'angle des catastrophes humanitaires qu'elles engendrent. Et aujourd'hui, on le voit, tant avec l'Ukraine que le Soudan par exemple, combien il est facile de sombrer soit dans le simplisme, soit dans le manichéisme, soit dans la complication extrême, soit dans un humanitarisme aveugle et stérile. Mais en tout état de cause, nous avons besoin d'être éclairés, d'être nourris par une pensée féconde et par un regard qui plonge dans la profondeur de l'histoire. Et c'est à cette aune-là que j'ai le plaisir de recevoir d'une part Ludovic Laloux. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous avez coordonné État, pouvoir et frontières aux presses universitaires de Rhin et Danube, ouvrage auquel a collaboré Emmanuel Lynch. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Philippe.
Que j'avais eu le plaisir de recevoir l'année dernière pour évoquer la question des empires et la relation entre nation et empire. Et c'est aujourd'hui à nouveau frais que, à l'occasion de cette émission, nous aurons de nouveau à prolonger notre conversation à la lumière de l'actualité tragique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, tout d'abord, mon cher Ludovic, par vous, j'ai découvert cette maison d'édition, Presse universitaire Rhin et Danube, que j'ignorais. Et je dois dire qu'un des grands intérêts de mon émission, c'est de me mettre petit à petit en contact avec un grand nombre de maisons d'édition, de découvrir combien elles sont nombreuses, combien elles sont animées par des esprits pleins de curiosité pour notre histoire et notre actualité. Et je dois dire que c'est profondément réconfortant pour l'homme que je suis et qui parfois est attristé, voire risque d'être désabusé par le climat ambiant. Donc, quelques mots de cette maison d'édition, de sa localisation et de ses ambitions avant que nous allions plus loin dans cette émission.
Merci bien. Alors, cette maison d'édition, toute nouvelle effectivement, les presses universitaires Rhin et Danube, date précisément d'il y a juste 2 ans, quasiment jour pour jour, mai 2021. Donc c'est un anniversaire que nous fêtons actuellement. Alors pourquoi cette maison d'édition ? Nous voulions vraiment, avec quelques collègues, bons amis, il faut le dire aussi, on voulait vraiment faire en sorte qu'il y ait une dimension internationale. D'où le choix des mots Rhin, Danube, qui aussi évoque sur le plan militaire d'autres pans de notre histoire, il est vrai. Mais en fait, en France, on est parfois assez recroquevillé sur nous-mêmes. Je me rappelle de certains qui me disaient « Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt à propos de la Loire, de la Seine, des presses universitaires qui porteraient ce nom ?» Je trouvais que ça aurait pu être bien, certes, mais peut-être que ça manquait un peu d'envergure, de souffle en quelque sorte. Et en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est qu'un certain nombre de collègues ukrainiens, bulgares, tchèques ou autres encore, slovènes, qui m'ont dit « Mais c'est étonnant que les Français s'intéressent au Danube. L'Europe n'est pas que la Seine, que la Loire, pour faire bref. » Donc il y a vraiment une dimension internationale. Et de fait, dans le comité scientifique, nous sommes originaires de 10 pays européens et du Japon, avec un total d'une vingtaine de collègues. L'entreprise fonctionne relativement bien. Le premier livre est sorti des presses en octobre 2021. La première vente, très précisément, le 14 janvier 2022. Et en un an et demi, quasiment, donc, eh bien, nous avons édité 53 livres. Voilà, c'est un objectif qui... On ne pensait pas l'atteindre aussi bien. Et on a quelques projets où on pense qu'on atteindra les 70 ouvrages pour la fin de l'année 2023.
Alors, parmi ces 53 livres, déjà publiés en deux petites années... L'ouvrage qui sert de référence à notre émission, sous votre direction Ludovic et celle de Romane Monnier, vous publiez « État, pouvoir et frontières, enjeux stratégiques nationaux et internationaux de l'époque médiévale à nos jours ». Alors c'est un ouvrage où beaucoup de choses sont évoquées, depuis la construction des frontières du Portugal jusqu'à la question des empires, n'est-ce pas, cher Emmanuel, en passant par la question complexe du droit des nations à leur autodétermination mise parfois en difficulté, avec un exemple du Tyrol italien, la construction ou la reconstruction de l'État tchèque s'appuyant sur une économie performante dans l'entre-deux-guerres, et un certain nombre d'autres sujets, y compris la question du tatouage au Japon. Tout ça pour illustrer la diversité des sujets que vous arrivez à aborder dans cet ouvrage relativement court, mais qui, par rapport à mon introduction, nous permet d'éviter le simplisme ou le manichéisme pour aider vos lecteurs à comprendre l'actualité et l'histoire contemporaine structurée au long des siècles. Et il m'a semblé que aborder dans un premier point, pour évoquer ces enjeux stratégiques, évoquer la question de la construction du Portugal entre 1100 et la fin et le début du XIIIe siècle était tout à fait intéressante, riche d'enseignements aujourd'hui, puisque l'on voit ce petit pays aujourd'hui, mais grand empire autrefois, se construire avec un littoral consolidé, une frontière orientale elle aussi consolidée par rapport au royaume d'Aragon, et puis tout cela avec la construction d'une monarchie administrative, avec à l'horizon la question des frontières, de leur définition, question des frontières dont on voit à travers le conflit ukrainien et d'autres, qu'elle est tout à fait prégnante aujourd'hui. Alors, c'est un premier point que je voudrais aborder avec vous à l'occasion de cette émission, c'est cette construction géographique et politique du Portugal.
Je vous remercie et je vois que vous avez déjà offert une belle synthèse. Alors juste avant de commencer, deux éléments. Un premier, je voudrais rendre hommage à Romane Monnier qui a contribué à la direction de cet ouvrage, qui en est à son quatrième ouvrage actuellement, c'est assez remarquable. Et par ailleurs, peut-être esquisser une petite réflexion sur l'idée de frontière, d'État, de pouvoir, parce que ça nous paraît peut-être simple et un peu manichéen, comme vous le disiez tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu plus complexe. Donc quelques rapides éléments avant d'évoquer le Portugal. En 843, au traité de Verdun, Lyon et Marseille se trouvent en Lotharingie. Et un certain nombre de territoires, aujourd'hui en Belgique, se trouvaient en fait en Francie occidentale. Voici, donc simplement pour remettre un peu en perspective, pour se dire que des frontières qui peuvent paraître un peu immuables parfois, finalement au gré des circonstances, sont amenées à bouger quelque peu. Alors attention, non pas qu'elles n'aient pas de légitimité, ces frontières, mais simplement, voilà, au fil du temps, cela évolue. Si on pense aussi, par exemple, à la disparition de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, avec trois partages qui l'ont fragmenté complètement jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et il faut attendre ce que les Polonais vont qualifier de miracle pour la renaissance de la Pologne, donc à l'issue de la Grande Guerre. Si l'on pense également à d'autres aspects concernant les frontières, on s'aperçoit que aussi bien l'Allemagne que la Russie, l'Union soviétique ont eu des frontières très fluctuantes. Et alors on dit souvent que la France a été plutôt depuis longtemps finalement...
Un peu préservée par cette fluctuation.
Voilà. En fait, c'est allé un peu vite en besogne quand même. Je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la Flandre, et notamment à l'époque de Saint-Louis au XIIIe siècle. Et je voudrais juste dire un mot aussi à propos d'un vitrail concernant Saint-Louis qui se trouve sur la page de couverture, 1226-1270, pour son règne. Alors, on le connaît comme saint, on le connaît comme chef d'État. On oublie aussi qu'il a fait en sorte que des pouvoirs régaliens puissent être mis en œuvre, et en particulier sur le plan juridique, avec notamment la mise en place du droit de faire appel. C'est majeur dans l'histoire de la justice, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, tous les pays dans le monde n'ont pas intégré cette dimension du droit de faire appel. Mais Saint-Louis, en évoquant cette idée du droit de faire appel, eh bien, introduit l'idée que la justice peut se tromper. Or, il n'est pas neutre, finalement, que cette idée que la justice puisse se tromper, c'est-à-dire fasse son mea culpa en quelque sorte, il n'est pas neutre que ceci apparaisse dans un royaume chrétien. Il est évident que les vertus chrétiennes, qui président finalement aux destinées de Saint-Louis, ont joué un rôle majeur ici dans ces aspects juridiques. Alors, revenons au Portugal auquel vous avez...
Je voulais juste, avant de passer au Portugal, dire que cette évocation de Saint-Louis et de cette construction juridique et de la mise en œuvre concrète de la notion d'appel m'a profondément intéressé parce que, pour moi, c'est Philippe le Bel qui était la figure emblématique de la genèse de la construction de la monarchie administrative et de la mise en place d'une justice qui commençait à être indépendante de la féodalité. Et donc, j'appelle l'attention de nos auditeurs sur votre propos concernant la figure de Saint-Louis par rapport à cette notion d'appel, mais qui est lié aussi de façon consubstantielle à l'existence d'un royaume chrétien. Alors, cette parenthèse étant fermée, nous arrivons au Portugal.
Le Portugal, quand on le regarde aujourd'hui, on peut se dire, mais finalement, c'est un peu étrange comme configuration dans la péninsule ibérique. On a un gros morceau qui, pardon, mais relève de l'Espagne. Il y a l'Andorre aussi, il est vrai. Mais en ce qui concerne le Portugal, on s'en étonne un petit peu, une sorte de rectangle en quelque sorte. Bon, ceux qui sont portugais connaissent leur histoire et savent très bien que finalement, il y a des enjeux séculaires qui existent. Mais en fait, les origines telles qu'on le connaît du Portugal aujourd'hui, les origines remontent essentiellement au XIIe, XIIIe siècle avec des frontières qui sont à l'époque stabilisées. Alors pour reprendre ce que vous disiez très justement tout à l'heure, par rapport aux trois grandes idées, c'est d'une part, on a les origines du Portugal qui se détachent de... C'est un comté à l'origine qui se détache de la Castille et qui, alors avec quelques circonvolutions parfois il est vrai, mais ça va conduire à faire en sorte qu'il y ait une délimitation des frontières à l'est. C'est peut-être ce qui a été relativement simple. Au sud, il y a une reconquête, utilisons ce mot, par rapport en fait à l'expansion de l'islam. Il y a en fait un retour à une situation antérieure où des populations chrétiennes, finalement lassées, si l'on peut dire, de domination musulmane, avec le paiement d'une taxe, avec le fait d'être considérées comme étant en infériorité, le statut de la femme également inférieur à l'homme, autant d'éléments qui finissent par peser au bout de plusieurs siècles. Et les habitants ont finalement eu le désir de renouer avec les racines originelles de leurs ancêtres. Et donc, il y a la reconquête, la reconquista, qui finalement ne concerne pas que l'Espagne, mais qui concerne aussi le Portugal.
Et qu'on connaît peu.
Qu'on connaît très peu.
On se focalise sur la reconquista espagnole.
Exactement.
En revanche, celle du Portugal est restée assez ignorée. Et est-ce qu'on a une idée du rapport démographique pour la partie occupée par les musulmans entre la population musulmane et la population chrétienne?
Alors, très honnêtement, là, de tête, je ne vais pas vous donner un chiffre, mais en tout cas, c'est une reconquête qui est progressive, mais qui est comme si elle était inexorable en quelque sorte. Il y a une sorte d'avancée régulière. Lisbonne devient finalement ou redevient chrétienne en 1147. Voilà, c'est des avancées progressives et qui conduisent finalement à faire en sorte que le Portugal puisse vivre en tant que tel. Mais simplement, c'est oublier peut-être cette frontière qui, semble-t-il, n'en est pas une. C'est la frontière à l'ouest. Parce qu'on se dit face à l'océan, mais finalement, tout va bien du point de vue des Portugais. En réalité, non. Il y a eu un certain nombre d'incursions, justement, de la part de musulmans qui, ne l'oublions pas, sont allés jusqu'en Islande opérer des raids et des razzias. En Méditerranée, c'est davantage connu. On sait que du 15e au 18e siècle...
Mais en Atlantique, c'est très peu connu.
Voilà. Mais du côté méditerranéen, c'est en Italie, en Espagne et pour le Royaume de France, 1 500 000 personnes emmenées en captivité pendant 3 siècles. Et du côté du Portugal, voilà. Alors, dans des proportions moindres, il est vrai, mais il y a eu aussi un certain nombre de razzias. Et donc, cette côte est à défendre également. Elle n'est pas figée au sens où on pourrait le penser. Alors, il est vrai qu'il y a aussi parfois quelques incursions qui viennent de territoires plus au nord, incursions latines, mais la grande menace, elle est quand même musulmane, et ce, pendant des siècles. Et donc, finalement, 12e, 13e siècle, on a le Portugal tel que, grosso modo, on le connaît aujourd'hui, il ne bouge plus guère. Et ceci est particulièrement intéressant parce que, finalement, c'est un cas d'espèce en Europe. À l'époque, le Royaume de France a encore de la marge de progression, si l'on peut dire, ce qui n'est pas le cas du Portugal, qui est quasiment achevé par rapport à la situation, par rapport à la configuration d'aujourd'hui.
Alors que finalement, on peut dire que c'est sous la France de Louis XIV que, grosso modo, vont se figer nos frontières. Donc le Portugal a pratiquement 450 ans d'avance, ou pas loin, sur
Exactement.
La France.
Exactement, oui, c'est juste, oui.
C'est-à-dire que le Vauban portugais, s'il existait, serait quelqu'un du début du XIIIe siècle.
Oui, effectivement. Alors, en ajoutant peut-être aussi à ce que vous disiez, c'est qu'il y a eu aussi une construction en interne. Les villes ont eu davantage d'autonomie, se sont émancipées en quelque sorte, ont rayonné davantage. Et il y a eu une construction de l'État au sens administratif que vous évoquiez à juste titre il y a quelques instants avec Saint-Louis, son petit-fils Philippe IV le Bel également. Mais du côté du Portugal, on retrouve cela également.
Mais on retrouve un mouvement général en Occident, peut-être un peu plus tardif, dans votre ouvrage. On parle des franchises accordées aux villes, ce qu'on trouve aussi en France, mais peut-être de façon plus tardive. Donc cela, même si le Portugal a un temps d'avance, participe d'un mouvement général quand même d'attribution de liberté aux communes ou aux villes. Et est-ce que le Portugal va avoir aussi un système féodal qui petit à petit va allant se déliter, ou bien la monarchie administrative, telle qu'on l'entend en France, va se mettre en place très rapidement au Portugal. Est-ce que le temps d'avance, le Portugal va le conserver, de ce point de vue-là ?
Alors, pardon, en un sens, oui, dans la mesure où le Portugal, finalement, s'aventure par-delà les mers, par-delà l'océan, et ça ne peut se faire que s'il y a des assises relativement solides, consistantes. On n'aurait pas pu imaginer un ensemble de départs s'il n'y avait pas eu une monarchie qui s'était renforcée au fil du temps. Mais peut-être que par la suite, voilà, la situation était moins bonne au cours des siècles. Mais notamment au tournant du XVe siècle, enfin, n'oublions pas qu'en 1420, les Portugais finalement découvrent les côtes ouest de l'Afrique. La France en était encore loin à l'époque.
Alors est-ce que l'historien que vous êtes, à partir de cet exemple portugais, tire des enseignements pour le monde d'aujourd'hui, notamment sur la question des frontières, et Emmanuel y reviendra avec la problématique empire versus nation, la problématique du droit international qui a entériné la stabilité des frontières avec quelques entorses. Mais ce qui m'intéresse, notamment dans le propos que vous venez de tenir, c'est que sur le long terme de l'histoire, et là, peut-être se heurte-t-on au droit d'aujourd'hui, c'est que les frontières évoluent, qu'elles ne sont pas perçues de la même façon quand on est à la périphérie, où elles sont perçues comme un lieu de passage parfois, et quand on est au centre, elles sont perçues plutôt comme un instrument de défense et de protection. Mais est-ce que dans le long terme de l'histoire, est-ce que le droit international peut tenir face à des évolutions de frontières qui sont liées à des mouvements de population ou à des rapports de force? Est-ce que, sans faire de prophétisme, est-ce que vous pensez que sur le long terme, par rapport aux grands mouvements de l'histoire, le droit suffit?
Alors, si on prend juste l'exemple du Portugal, c'est forces sont peut-être un peu limitées par rapport à différents enjeux internationaux. Plus localement, on voit quand même qu'un certain nombre de Français, avançant en âge, finalement, cherchent à passer leur retraite au Portugal. C'est que finalement, il y a peut-être une certaine quiétude, même si l'actualité toute récente, ici au printemps 2023, a parfois remis en cause ici ou là cette quiétude au Portugal très localement. Mais voilà, effectivement, il y a ces mouvements de population auxquels vous faites allusion qui conduisent imperceptiblement parfois à faire bouger.
Alors il y avait un deuxième enseignement que je pense on peut tirer à l'heure où on évoque les questions de perte de souveraineté, d'affaiblissement de l'identité nationale. C'est ce lien entre la construction d'un État au Portugal, assez rapide, et, ou même très rapide, et ce que vous disiez, c'est-à-dire la projection outre-mer du Portugal, parce que par rapport au temps long de l'histoire, finalement, c'est très rapide. Le Portugal devient une des puissances majeures. Et est-ce qu'il y a des enseignements à tirer entre solidité intérieure et politique étrangère? Alors évidemment, la politique étrangère, c'était l'impérialisme portugais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire qui nous parle aujourd'hui en ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, les deux étant bien plus profondément liés qu'on ne le croit? Parce que typiquement, dans nos campagnes électorales, on évoque rarement la politique extérieure, comme si finalement elle ne comptait pas dans les préoccupations de nos contemporains. Et ce qui m'a notamment intéressé dans cet article, mais c'est peut-être un peu implicite, c'est que finalement il n'y a pas d'aventure coloniale portugaise sans d'abord une solidité sur le continent. Est-ce que vous faites un petit peu cette même analyse que celle que je me permets de faire?
Oui, je vous en prie. Alors, j'ajouterais peut-être une autre dimension économique. On n'en a pas vraiment parlé jusqu'à présent. Et en prenant l'exemple notamment du Paraguay, des Indiens Guarani, parce que Philippe II d'Espagne avait fait en sorte que, en confiant le développement des Indiens Guarani aux Jésuites notamment, qui ont fait attention à ce qui existait localement, en faisant en sorte qu'il y ait un respect notamment des 8 heures de travail, pas plus par jour pour les Indiens Guarani, en faisant en sorte, je parle des Jésuites, en faisant en sorte qu'il y ait véritablement une prise en compte de ces populations locales, il y a eu pendant à peu près un siècle et demi une situation vraiment particulière, singulière. Mais des appétits, on va appeler cela ainsi, des appétits de certains marchands portugais ont conduit à bouleverser l'ordre établi, et ce qui montre qu'il n'y a pas que les aspects, j'irai, relevant de l'État, il y a aussi parfois des initiatives non d'entreprises commerciales ou autres qui conduisent à bouleverser ce qui avait été patiemment établi ici dans le cadre du Paraguay.
Alors, après cet exemple portugais, où on commençait déjà à évoquer la question impériale, je me tourne vers notre ami Emmanuel Lynch, dont je rappelle que il avait été reçu à ce micro il y a à peu près un an, pour évoquer la question impériale, que vous êtes auteur de La Nation face à l'Empire et La France face à la République.
C'est exact.
Donc des livres qui ne s'inscrivent pas vraiment dans ce qu'on appelle le politiquement correct. Mais je voudrais que nous rappeliez aussi que, en dehors de vos activités d'écriture, vous avez aussi, vous mettez à votre activité, vous lui conférez une dimension politique, parce que le souci que vous avez de la France, de sa souveraineté, vous le traduisez aussi dans d'autres interventions. Donc je voudrais que vous nous en disiez deux mots.
Je vous remercie, Philippe. En effet, j'ai fondé donc le mouvement France Libre Vraie Europe, qui est un mouvement politique de libération nationale et qui a pour objet de libérer la France et la reconstituer en État. Donc on parlait tout à l'heure de la logique de l'État. Un État, c'est un territoire, c'est un peuple, c'est aussi la souveraineté. La souveraineté, c'est, comme disait Marie-France Garraud, faire les lois, rendre la justice, battre monnaie et déclarer la paix et de la guerre. Il s'avère que la France s'est lancée dans une aventure très particulière qui est de se soumettre à un nouvel empire, qui est l'empire de l'Union européenne. Et je pense que c'est une aventure qui n'est pas bonne pour nous, parce que la France est appelée à la liberté. Et donc c'est pour ça que je propose que les Français se joignent et participe à cette œuvre de reconstruction et libération de la France.
Alors, vous avez évoqué la France, les attributs de la souveraineté, on y reviendra, parce que peut-être que ces attributs, aujourd'hui, peut-être, voire sûrement, ont été perdus pour une part. On évoquait avec Ludovic l'Empire portugais. Vous évoquez l'empire de l'Union européenne, donc, et j'aime bien le citer parce que sa question est fondamentale pour beaucoup de sujets, c'est le maréchal Foch, c'est le de quoi s'agit-il. Et aujourd'hui, dans le débat médiatique, on peut regretter que les termes soient rarement définis. Donc, quand on regarde la scène contemporaine, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Turquie, certains évoquent le retour des empires, les chefs militaires évoquent les conflits de haute intensité, donc il y a une espèce d'imbrication de réflexion stratégique et puis de réflexion sur la remontée en puissance d'anciens empires. Mais il me semble que le mot empire, il est un peu galvaudé. Alors vous, Emmanuel, comment définissez-vous l'empire ?
Alors, l'empire est effectivement utilisé un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Je crois qu'il convient d'abord de rappeler qu'il s'agit d'un gouvernement propre à plusieurs peuples et nations. L'empire est un État, donc effectivement il fait les lois. L'empire a la particularité de distinguer la citoyenneté de la nationalité, c'est-à-dire qu'il rassemble un ensemble de peuples et de nations. C'est le cas par exemple de l'empire de l'Union européenne. Vous avez la nationalité française, mais vous avez aussi la citoyenneté de l'Union européenne, de l'empire de l'Union européenne, qui vous a été donné avec le traité de Maastricht. C'est ensuite aussi l'empire, un monde qui s'étend. Donc il y a toujours eu historiquement des empires qui s'étendent, et c'est encore le cas de l'Union européenne, comme on le voit avec toutes les perspectives d'élargissement et les dernières candidatures qu'on peut voir forcément, l'ancienne de la Turquie et aujourd'hui celle de l'Ukraine. Donc je pense que l'empire a aussi eu un besoin d'être idolâtré. On voit très bien aujourd'hui qu'on demande d'adorer la construction européenne, pensant qu'effectivement c'est l'alpha et l'oméga de ce qui est nécessaire pour nous. Donc, dans l'Empire, il y a aussi une fusion du temporel et du spirituel. Là où nous, dans l'Occident latin, on distinguait le roi et le pape, donc on distinguait le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, il y a généralement dans l'Empire une volonté aussi d'apporter un contenu spirituel. Et on le voit, c'est dans le romantisme allemand. Donc on retrouve donc ces empires donc qui sont des réalités territoriales, j'insiste bien là-dessus, parce que souvent on dit oui, les États-Unis sont un empire. Non, je crois que les États-Unis sont une nation puissante. En effet, c'est une hyperpuissance nationale, mais ce n'est pas le fait d'avoir des bases militaires éventuellement à l'étranger qui font des États-Unis un empire, de même que la France n'est pas un empire parce qu'elle a des bases en Afrique ou au Proche-Orient. Donc c'est bien une réalité territoriale avec un gouvernement de plusieurs peuples et plusieurs nations. Et il y a aujourd'hui plusieurs empires, évidemment.
Alors, à ce stade-là, je me permets deux objections ou deux questions qui peuvent appeler vos réponses qui nous permettront d'aller plus profondément. C'est que l'Union européenne, c'est selon vous un empire, mais en fait, on y adhère ou on n'y adhère pas, on vote ou on ne vote pas, et historiquement, est-ce que on trouve des exemples d'adhésion volontaire par traité, je pense au traité de Rome, puis de ceux qui s'en suivent, de nations qui volontairement décident d'adhérer à une structure supranationale. Et puis la deuxième chose, et on y reviendra, et je vais peut-être choquer quelques auditeurs de Radio Courtoisie parce que je connais leur attachement à la langue française. Je ne suis pas complètement convaincu, de mon point de vue, que les États-Unis ne soient pas vraiment un empire, parce que quand on évoque le soft power américain, on est bien dans une exportation d'un mode de vie, même d'une architecture, où que vous alliez dans le monde, grosso modo, vous trouvez partout des villes qui pourraient avoir leur modèle dans le New York ou le Chicago, des années 20, donc il y a une exportation culturelle aussi du modèle américain qui me fait dire qu'on est peut-être dans un empire un peu hybride, dans autre chose que une hyper-nation. Donc c'était le premier point, c'était la question de l'adhésion volontaire à une destinée impériale.
Alors, la particularité de l'Union européenne est que c'est un empire qui ne s'est pas fait à travers des conquêtes par la force. Ça s'est plus fait par le droit, effectivement, et par l'économie. Donc, il a été proposé à un certain nombre d'États de se fondre dans cette nouvelle aventure, qui est une union politique, hein, que Zinev Brzezinski, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Carter, voyait vraiment comme une construction dite originale, mais qui n'est plus ni moins qu'un empire. Donc, les peuples ont été consultés. Certains ont dit non, certains ont dit oui. Certains se sont fait arracher, effectivement, un oui. Mais c'est bien un empire au sens où vous avez la citoyenneté de l'Union européenne et vous avez une nationalité qui diffère. Donc c'est la construction de cet empire qui est de fait assez hétérodoxe, je dirais, et peu commune. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, typiquement, l'empire russe, lui, se fait par la force. Donc l'empire, enfin la Russie est un empire. Brzezinski disait « la Russie cesse d'être un empire sans l'Ukraine ». Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Je pense que même sans l'Ukraine, en fait, quand on compte la Tchétchénie, qui est un peuple qui a une autre foi, qui a une autre histoire, qui a une autre culture, et qui fait partie de la Fédération de Russie, on a bien face à nous un empire. Un empire qui s'étend, je pense à la crise de 2008 avec l'Abkhazie et l'Ossétie, qui s'étend en 2014 avec la Crimée, et ensuite en 2022 avec les républiques du Donbass. Donc c'est une réalité pour la Russie, qui est une réalité, objective, qui est un gouvernement de plusieurs peuples et nations, qui s'étend, qui propose la citoyenneté et le passeport de la Fédération de Russie aux pays conquis, et qui se fait effectivement gérer par la force. Ça c'est pour citer, un empire contemporain. Quand on parle de l'Union européenne, effectivement, ça s'est fait tout à fait différemment, même si on peut dire qu'il y a eu aussi une utilisation des médias qui a permis de forcer peut-être et d'arracher la décision lorsqu'il y en a eu. Il y a aussi des pays comme les Pays-Bas ou la France qui ont dit en 2005 « nous ne souhaitons pas aller plus loin dans la construction dite européenne et le développement de cet empire ». Malgré tout, le traité de Lisbonne, finalement, a repris toutes ses prérogatives.
Oui, mais alors, je vous arrête sur deux points. Avant de donner la parole à Dudovic pour savoir quel regard lui porte sur les définitions puis la situation que vous décrivez, historiquement, les empires s'incarnent dans une figure. On se souvient de la parole évangélique du Christ par rapport à ses interlocuteurs juifs qui lui demandent « qui sert-on ?» Et là, on utilise une pièce de monnaie avec une effigie. Et tout au long de l'histoire, des hommes, des femmes, je pense notamment à la Russie, et des dynasties incarnent les empires. C'est-à-dire qu'il y a une dimension profondément humaine pour incarner l'empire. Ce qui peut poser question par rapport à l'Union européenne, c'est que qui incarne physiquement l'Union européenne aujourd'hui qui apparaît quand même comme une hydre à multiples têtes. Donc c'est un empire un peu anonyme qui apporte peut-être une certaine difficulté pour le définir complètement dans la catégorie des empires.
Je ne crois pas. Je pense qu'il n'est pas incarné par une personne aujourd'hui, mais c'est un empire qui a une tête et un gouvernement, qu'on appelle la Commission européenne, qui a un Parlement, le Parlement européen, qui a des symboles. Donc il y a l'euro, effectivement, qui est la zone euro, qui est un peu différente de l'Union européenne, mais il y a une journée le 9 mai, qui est la journée donc, de l'Union européenne. Vous avez tout un tas d'une symbolique, vous avez une musique, vous avez un chant. Donc l'Union européenne, en tant qu'empire, c'est doté de ces symboles qui permettent, d'une certaine manière, de s'identifier à quelque chose de commun. Mais il n'y a pas, effectivement, d'incarnation réelle de cet empire, mais... Quand on regarde en fait les dynasties, par exemple les empires islamiques, il y avait certes des dynasties, mais c'était la religion ou le système qui favorisait la communauté en fait au sein de ce même empire. Mais aujourd'hui, je pense que même s'il n'y a pas de personne qui incarne véritablement cet empire, il s'est doté de tous les attributs qui lui permettent en fait d'avoir une certaine unité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne aussi a vocation à s'étendre au-delà de l'organisation temporelle et d'aller même sur la partie un peu spirituelle. Quand on voit la façon dont elle promeut une certaine anthropologie, qui diffère largement de l'anthropologie chrétienne par exemple, on voit qu'il y a une volonté en fait aussi de s'emparer d'une dimension presque spirituelle. On vous demande de croire dans l'Union européenne. Vous croyez dans la construction européenne. À partir du moment où vous dites « écoutez, je pense que je préfère être un État souverain et libre », on vous dit « ah mais donc tu ne crois pas ». S'agit-il d'une affaire religieuse ?
Alors, affaire religieuse, évoquons Chesterton. Quand cet auteur qui évoque les vérités chrétiennes devenues folles, et que, partant de Chesterton, on songe au père fondateur de l'Europe d'aujourd'hui.
De l'Union européenne.
Sauf Jean Monnet, tous démocrates chrétiens.
Tout à fait.
Gasperi, Schumann, bon. Et que l'on songe à la vieille lutte entre le sacerdoce et l'Empire, où vous évoquiez les prétentions de l'Empire à exercer le double pouvoir, mais n'oublions pas aussi les prétentions de la papauté, à un moment de l'histoire, dans sa lutte avec l'Empire, à exercer peut-être une domination à la fois temporelle et spirituelle. Est-ce que l'Union européenne n'est pas, je reprends le mot de Chesterton, quelque chose qui participe d'une vision laïcisée de la chrétienté du pape Grégoire?
Je pense que le monde était laïque, je dirais peut-être sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y avait une différence claire entre le temporel et le spirituel. À partir de la Révolution française, il y a eu exclusion de l'Église catholique romaine et fusion de l'État et du nouveau spirituel, du nouveau religieux, notamment la déesse raison. C'était aussi le culte de l'être suprême. Donc justement, il y a fin de la laïcité avec la République, enfin avec la Révolution française, et fusion du temporel et spirituel, et donc la naissance de l'État totalitaire. Donc je pense que c'est justement l'inverse qui s'est passé. C'est que le monde était laïque, et il a cessé d'être laïque aujourd'hui. Et même si, d'une certaine manière, il y a une liberté religieuse effective au sein de l'Empire de l'Union européenne, on vous demande de croire à certaines valeurs. J'ai le coutume de dire qu'en fait, l'Empire de l'Union européenne, c'est la République Empire, c'est-à-dire la République française et ses valeurs initiales, celle de la Première République, en mode impérial. Et n'oublions pas qu'en fait, la base de l'Union européenne, c'est la Pan-Europe, hein, de Richard Kudnov-Kellerji. Les démocrates chrétiens ont été convoqués pour appuyer cette dite construction européenne, mais ça n'est pas du tout un chrétien qui est à la base de cet empire. Et on a la chance d'avoir maintenant donc publié Pan-Europa, qui était publié en 1923, traduit, préfacé par l'ancien commissaire européen Michel Barnier, qui donne véritablement quelle est l'ambition de cette Pan-Europe, de cette union pan-européenne qui est devenue l'Union européenne. Donc les dix démocrates chrétiens qui, eux, généralement, sont favorables à l'empire, certes à l'empire chrétien, mais à l'empire quand même, contrairement, on parlait de Saint-Louis, sont finalement les alliés. Donc Richard Kudnov-Kellerji a pu compter les démocrates chrétiens comme leurs alliés.
Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, comme nous sommes sur Radio Courtoisie et que cette radio ne vit que des dons de ses auditeurs, un petit bobino et nous reprenons notre conversation.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai le plaisir de recevoir, dans le cadre du Libre Journal de la Défense, Ludovic Laloux et Emmanuel Lynch pour évoquer un ouvrage passionnant, État, pouvoir et frontières, aux presses universitaires Rhin et Danube. Et nous évoquions, avant ce bobino, la question de l'Union européenne, de sa nature et de ses fondements spirituels, où, Emmanuel, vous nous disiez combien, en réalité, par rapport peut-être aux illusions d'un Robert Schumann ou d'un Alcide de Gasperi, finalement, cet empire, tel que vous le qualifiez, s'inspirait plus de la religion, de l'être suprême, que des principes fondamentaux du christianisme. Mais je me tourne là maintenant vers Ludovic Laloux. Quel regard vous portez sur les fondements de l'Empire tels que Emmanuel les décrivait?
Alors, les fondements de l'Empire au sens de...
Est-ce que vous partagez son analyse, d'abord sur les définitions de l'Empire, et donc est-ce que vous inscrivez l'Union européenne dans cette catégorie impériale que... frappé quand même d'un certain anonymat, parce que la Commission européenne, pour le citoyen européen ou pour le français, c'est d'abord un agglomérat, peut-être caractérisé par la figure d'Ursula von der Leyen aujourd'hui, mais enfin, ça donne l'impression d'un empire gouverné par la technocratie. Est-ce que quelle est votre vision, vous, de l'Union européenne comme empire par rapport à ce qu'en dit Emmanuel ?
Alors, il y a deux éléments, me semble-t-il. D'abord, une trajectoire sur le long terme qui connaît un centre de césure, je vais y venir dans un instant, mais il y a aussi, par ailleurs, finalement, ces propos qui ont été tenus il y a quelques années par un ancien dissident soviétique, Boukovski, qui disait à propos des populations de l'Union européenne « J'ai déjà vécu dans votre futur et ça n'a pas marché ». La comparaison est assez éloquente en un sens, effectivement, invitant à être prudent. Et par rapport au premier point auquel je faisais allusion, en ce qui concerne les racines, rappelé effectivement très justement par Emmanuel Lynch, c'est que effectivement il y a cette idée de pan-Europe dans les années 1920, mais en même temps, nous avons à Cologne, en 1927, une rencontre des responsables des partis des démocrates chrétiens de l'époque, avec notamment, vous évoquez les noms, Alcide Gasperi, qui avait dirigé le PPI, le Parti Populaire Italien, pendant 5 ans. Il y avait aussi Konrad Adenauer, qui était l'hôte de cette rencontre, puisqu'il était maire de la ville de Cologne depuis 1917, avant d'être arrêté par les nazis, à 2 reprises d'ailleurs. Il y avait aussi Robert Schuman, né au Luxembourg. Et les trois, notamment, pour s'attarder sur ces 3 personnages, les 3 avaient en commun, d'une part, d'être catholiques, d'être convaincus de leur foi, et, marqués aussi par des engagements profonds, et puis aussi, l'air de rien, ils parlaient allemand, ce qui quand même facilitait la tâche.
Et ce sont des hommes de la frontière. Il y a le Rhénan, Schuman, le Mosellan, donc aux confins de la France et puis de l'Empire. Gasperi devait être, me semble-t-il, un Italien du Nord, donc,
du Trentin,
donc la proximité de l'Autriche. Donc pour en revenir à notre sujet initial des frontières comme lieu de passage et non pas au sens romain de celui qui fait front face en adversaire, on a aussi cette dimension géographique implicite chez ces 3 personnages.
Exactement, c'est vrai, oui. Mais en tout cas, donc, vous l'avez compris en éclairant ceci aussi de cet aspect frontalier, c'est qu'ils ont des points communs. Et c'est quand même beaucoup plus facile de discuter d'abord en allemand, je veux dire la langue qui est commune, sur des questions de fond, sans avoir besoin de traducteurs. Or, très vite finalement, lorsque le 9 mai 1950, enfin je dis très vite, entre les années 1950...
La guerre est passée par là.
La guerre est passée par là, effectivement. 9 mai 1950, nous sommes dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, et Robert Schuman prononce un discours devenu célèbre, qu'il a eu soin d'abord d'envoyer pour le texte, il a eu soin de l'envoyer à Konrad Adenauer pour lui demander ce qu'il en pensait. Donc il y a eu un certain nombre d'ajustements qui sont produits. Mais l'idée, c'est de dépasser, je reprends textuellement les propos, de dépasser les oppositions séculaires. Oppositions séculaires, effectivement. Mais, deuxième point dans cette intervention, c'est l'idée de la mise en commun du charbon et de l'acier. Et c'est vrai que c'était quand même plus facile de mettre en commun 2 éléments majeurs en cette période de construction plutôt que de mettre en commun les fraises et les framboises. Mais, il y a un troisième point qu'on oublie parfois, vers la fin de l'intervention de Robert Schuman. C'est l'idée que les bénéfices qui seraient réalisés de cette entente seraient envoyés aux populations africaines nécessiteuses. Là encore, comme on l'a dit tout à l'heure pour Saint-Louis à propos du droit et de l'évolution du droit de faire appel, l'idée de reconnaître qu'on a tort, voilà, ça ne pouvait venir que de chrétiens en quelque sorte. En tout cas, Robert Schuman le propose, nous sommes en 1950, pardon. Mais en 1957, le 25 mars, il y a le traité de Rome et on voit apparaître la communauté économique européenne, appelée aussi assez rapidement le marché commun. Ce qui veut dire que très vite, on a le primat de l'économie qui apparaît. Quelles sont les idéologies, quelles sont les idées qui mettent en avant le primat de l'économie? On a le capitalisme, on a le marxisme. Les idées originelles démocrates chrétiennes finalement sont assez vite dévoyées en quelque sorte. Et puis, si l'on veut évoquer par exemple le premier commissaire de la communauté économique européenne en 1958 jusqu'en 1967, c'est un Allemand, un certain Walter Hellstein, nazi pour ses origines, qui avait été le conseiller d'Hitler notamment dans les accords sur le plan juridique pour le rapprochement à la fin des années 1930, avant la guerre, entre le Troisième Reich et l'Italie fasciste. Ce juriste de Rostock, c'était quand même pas nécessairement tout à fait à l'improviste qui avait été choisi pour cela. Et curieusement, c'est lui qui finalement devient donc le premier commissaire européen en 1958. Et puis, Emmanuel Lynch l'évoquait tout à l'heure, très justement aussi, de manière adroite, subtile, c'est qu'en 2005, il y a finalement le nom qui apparaît au référendum par rapport à quoi ? Mais par rapport au fait que finalement les racines chrétiennes finalement, de l'Union européenne étaient bafouées, non reconnues dans le projet de constitution. Les Néerlandais faisaient de même, et finalement c'était par le traité de Lisbonne en 2007 qu'il fallait, ou que certains ont fait en sorte que finalement ce qui avait été rejeté à 55% en France quand même par les peuples, eh bien soit finalement contourné par ce traité de Lisbonne.
Oui, mais 2007. On sait combien le président Chirac et le premier ministre Jospin étaient d'accord pour que ne soient pas évoquées les racines chrétiennes de l'Europe dans le traité constitutionnel, d'une part, et puis, d'autre part, pour ce qui concerne le référendum sur lequel, finalement, le président Sarkozy est revenu via un vote du Parlement, dans ces deux cas-là, ça n'est pas l'Europe en tant que telle qui est en cause, mais c'est quand même des hommes politiques français qui décident, à un moment donné, d'une part, le reniement des racines, et puis, d'autre part, de désavouer un référendum par un vote parlementaire. Donc, par là même, on a quand même, nous, Français, des responsabilités qui ne tiennent pas à la Commission européenne ou au Parlement européen, mais c'est de la volonté d'hommes politiques qu'on a pris ce type de décision.
Oui, mais en tout cas, donc, il y a une certaine trahison de la démocratie. Et d'ailleurs, depuis 2005, si je ne fais pas erreur, depuis 18 ans, il n'y a pas eu de référendum qui était mis en place en France. Il ne faut pas oublier aussi qu'en 2005, il y avait aussi bien à gauche et à droite des personnes qui avaient milité pour récuser le projet.
Alors, Emmanuel, sur cette question des démocrates chrétiens et de l'inspiration première de l'Union européenne, malgré ce que vous avez dit des intentions de Koutenov-Kalergi sur la fondation d'une Europe totalement étrangère à ses origines, je sens que vous divergez d'un petit de ce que peut dire Ludovic sur ses origines.
Alors j'ai pas tant l'impression que ça, parce qu'en fait il a commencé par effectivement parler de Koutenov-Kalergi pour comprendre en fait la logique.
Peut-être quelques
spirituelle.
Mots, parce que je suis pas sûr que nos auditeurs soient tous familiers de la biographie du comte Koutenov-Kalergi et du rôle qu'il va jouer en réalité dans la constitution de cette Union européenne.
Richard Koutenov-Kalergi s'engage, donc il est donc autrichien de naissance, et s'engage largement dans cette dite construction et propose en fait un projet alternatif, typiquement à celui d'Adolf Hitler, qui visait donc à rassembler tous les pays européens dans sa construction européenne différente. Richard Koutenov-Kalergi, lui, donc écrit Pan-Europa en 1923, donc la Pan-Europe, mais propose aussi une espèce de contenu spirituel dans l'idéalisme pratique en 1925, donc Praktischer Idealismus. Et donc c'est le moment des années 20 où il y a beaucoup de réflexions pour savoir quel devrait être le devenir de l'Europe, et en particulier s'il faut viser, donc j'irais, une unification politique. Et il s'avère que dans la suite des événements, il n'y a eu guère que Charles de Gaulle pour s'opposer entre 58 et 74 à cette dite
construction. 70, parce qu'il quitte les affaires.
Alors je compte effectivement. Alors je compte effectivement Pompidou et dans la continuité. C'est vraiment avec Valéry Giscard d'Estaing que les choses changent. Et je suis doublement d'accord, je dirais, avec Ludovic, parce que l'empire de l'Union européenne est sur une base allemande. Pas seulement pour une histoire de centre de gravité économique, mais le modèle de l'empire de l'Union européenne est un modèle, comme disait Marie-France Garraud, apolitique et administratif. Et comme vous le savez, la France est une nation et un État hautement politique, qui a vraiment une conscience de lui-même. Une nation, un peuple qui a conscience de lui-même, qui devient une nation, et qui historiquement décide de se constituer en État. Ça veut dire que l'empire de l'Union européenne, empire allemand, certains disent le quatrième empire allemand, apolitique et administratif, pour moi, est mortel pour la France.
Alors vous nous entraînez sur des réflexions presque métaphysiques, mais qui, en tout cas philosophiques, parce qu'elles me rappellent un ouvrage publié l'année dernière ou il y a deux ans, évoquant le saint-simonisme chez notre président actuel, c'est-à-dire le gouvernement des choses plutôt que celui du gouvernement des hommes. Est-ce que l'Union européenne, telle que là on l'évoque autour de nos micros, ça n'est pas d'une certaine façon l'empire du gouvernement des choses. Parce que vous nous dites que la France est une nation éminemment politique, avec tous les travers aussi que ça suppose, hein, d'affrontements. On a l'impression que ce qu'on a appelé le capitalisme rénant, c'est plutôt le gouvernement des choses, quoi qu'on puisse en penser. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a du saint-simonisme dans la construction européenne ?
Écoutez, à brûle pour point, je n'ai pas vraiment...
Le gouvernement des choses, ouais, par des technocrates et des juristes.
Ce que je vois, c'est que ce modèle, effectivement, apolitique et administratif, tend à le dire. Mais au niveau économique, on voit très bien qu'il y a plusieurs façons de faire. En France, en fait, la puissance économique est généralement la conséquence d'une décision d'État. Même De Gaulle, en fait, avec la Ve République, relance, je dirais, de la commande publique, l'économie. Quand on est dans le capitalisme rénant, ce sont des familles qui développent, je dirais, de l'industrie, du business, etc. Donc ça repose sur des familles, sur des banques régionales, etc. C'est un modèle qui est autre. Chez nous, en fait, l'économie découle largement de l'État et produit de nombreux emplois, alors qu'il en est autrement dans le capitalisme rénant. Et du côté britannique, c'est encore autre chose. C'est la logique du marché, la logique des actions. Donc on a vraiment trois, j'irais, manières de faire vivre nos pays et de créer de la richesse, qui est ce modèle très étatique, qui est une force, mais qui est aussi une faiblesse dans certains cas en France. Le capitalisme dit rénant, qui est celui du Saint-Empire et de l'Empire de l'Union européenne, qui finalement est très stable, mais qui est dépourvu de politique, hein, on le voit bien, hein, en fait, en Allemagne. Il y a un manque, il n'y a pas cette passion de la politique qu'on peut avoir chez nous. Et enfin, le système britannique, qui, lui, a besoin du libre-échange, parce que c'est la nature de ces marchés qui a besoin, je dirais, de pouvoir exporter, de pouvoir échanger. Et c'est toute l'histoire, justement, britannique.
Alors, en dépit de toutes ces différences, mais qui sont transcendées, on le voit dans le traité de Lisbonne, d'une certaine façon transcendé par le principe quasi absolu de la concurrence, qui mène en matière de services publics à ce qu'on peut appeler parfois des catastrophes. Malgré tout cela, qui est fortement matérialiste, la guerre en Ukraine a réactivé l'idée de compétences en matière de défense, puisqu'on a vu Ursula von der Leyen prendre quand même des décisions qui touchent aux questions militaires, donc à nos questions de souveraineté. Donc cet empire un peu anonyme aujourd'hui affiche, sans que les nationaux soient forcément d'accord, des prétentions en matière de défense. Alors, selon vous, messieurs, jusqu'où peuvent se concrétiser ces prétentions-là, d'autant plus que la France, jusqu'à présent, est dotée d'une force de dissuasion dont l'emploi ne ressort que du président de la République. Donc, est-ce qu'on passe du gouvernement des choses à plus ?
Pour moi, c'est simplement le dernier attribut de souveraineté qui manquait à l'Empire de l'Union européenne. Donc il y avait donc déjà qui faisait les lois, c'est le rôle du Parlement, qui rendait la justice, la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a aussi donc cet objet qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un peu différente. Il y avait ensuite la possibilité de battre monnaie.
Qui dépend du Conseil de l'Europe.
Tout à fait, mais qui est aussi un droit dit supranational. Ensuite, il y a la monnaie de l'euro qui est frappée à Francfort. Et il manquait finalement gérer la décision de déclarer la paix et de la guerre, c'est-à-dire la logique guerrière. Et ces choses faites avec justement la facilité européenne pour la paix qui finance donc la guerre gérée en Ukraine. Mais n'oublions pas quand même que les décisions sont prises largement à l'unanimité. Il ne faudrait pas rendre responsable Ursula von der Leyen plus qu'elle ne l'est en réalité. Mais il est clair que la crise de 2022 ukrainienne a permis à l'Empire de l'Union européenne, d'avoir son dernier attribut de souveraineté, qui est celui de la paix et de la guerre. Pour, à la fin, on pourra peut-être en reparler, absorber cette terre d'Ukraine. Et là, ce n'est pas un jugement de valeur sur ce que souhaitent les Ukrainiens, ce qui serait bon ou mal pour eux, je les laisse décider pour eux-mêmes. Mais il y a une volonté, ancienne aussi, de s'affranchir de l'Empire russe pour ensuite rejoindre l'Empire de l'Union européenne.
Alors nous parlions de l'Empire de l'Union européenne dans sa dimension très matérielle, quelques minutes courtes, mais avec Mozart qui, lui, nous rappelle qu'il y a eu, ou qu'il y a encore peut-être, une civilisation européenne qui transcende tout ça. Concerto numéro 23, quelques notes. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ludovic Laloux et Emmanuel Lynch pour évoquer État, pouvoir et frontières aux presses universitaires Rhin et Danube. Et nous parlions encore de l'Union européenne, de sa dimension impériale. Après, non pas le concerto 23 tel que j'ai eu l'imprudence ou l'incompétence de le nommer, mais le concerto numéro 15 de Mozart qui illustrait la grandeur, la beauté de la civilisation européenne à laquelle, je crois, de ce point de vue-là, nous sommes tous attachés. Et deux auditeurs viennent de réagir, l'un pour nous dire que la liberté du peuple français ne peut être aliéné que par le peuple et non par ses représentants, que le traité de Lisbonne n'a pas été voté par le peuple et donc cet auditeur considère qu'il est caduc, c'est un abus de droit. Et puis un autre auditeur intervient pour abonder dans votre sens, Emmanuel, en disant oui, l'Union européenne c'est un empire, et appelle notre attention sur les déclarations du chancelier allemand Scholz qui réclame l'abandon de l'unanimité dans un certain nombre de votes, tout cela pour, pense cet auditeur, finalement officialiser une situation de fait par ce qu'il appelle la soumission économique de pays croupions.
Alors, si je peux me permettre, la majorité qualifiée date de l'acte unique de 1986, rentré en fonction donc en 87. Et la raison pour laquelle justement le général de Gaulle avait pratiqué la politique dite de la chaise vide qui s'était résolue par le compromis de Luxembourg, c'était justement parce qu'il refusait que la majorité qualifiée ait préféré l'unanimité. Comme j'ai coutume de dire, dans nos contrats dans le domaine de l'énergie, qui est mon métier, un droit de veto, ça vaut très cher. Vous pouvez avoir 1% dans un contrat ou dans une société, si vous avez un droit de veto sur la décision, ça vous donne un très grand pouvoir. En revanche, la majorité qualifiée vous fait perdre, si vous êtes mis en minorité, cette capacité. Donc c'était l'ambition de l'acte unique, qui est vraiment la naissance, d'un niveau supranational qui peut vraiment passer outre les décisions françaises. Et ensuite, avec le traité de Maastricht, cette majorité qualifiée est encore renforcée et associée à une véritable citoyenneté de l'Empire qui n'existait pas jusqu'alors.
Alors nous allons quitter un petit peu le continent européen, mais pour y revenir, pour évoquer l'Ukraine, la scène du monde aujourd'hui est non pas encore dominée, mais on voit bien l'ombre portée de la Chine sur toutes les grandes questions qui sont posées au monde. Que dire à propos de cette logique impériale, des définitions que les uns et les autres nous avaient données, que dire de cet empire chinois qui est quand même, du point de vue ethnique, très monolithique, malgré l'existence des Ouïghours, qui se qualifie lui-même, ou que l'on qualifie comme l'empire du milieu. Donc qu'est-ce que c'est que ce milieu, expression, là encore, plus galvaudé que défini. Donc, je suis très intéressé par votre définition. Et puis, ayant un petit peu évoqué cette question chinoise, eh bien, prolonger la conversation sur cette place de la Chine dans le concert des nations. Et nous reviendrons donc à l'Ukraine, à propos de laquelle, on peut évoquer des confrontations peut-être impériales, ou en tout cas un conflit qui a une dimension qui dépasse la question du Donbass ou de la Crimée. Alors Emmanuel, Ludovic, sur la Chine aujourd'hui, Emmanuel.
Alors justement, j'ai eu l'occasion d'écrire un article qui était « La Chine et les États-Unis sont-ils des empires ?» Et cet article faisait suite justement à celui de l'Ukraine vers un nouvel affrontement des empires, point d'interrogation. Et donc je me suis posé la question, et déjà dans La Nation face à l'Empire, de savoir si oui ou non la Chine était un empire. Parce qu'on dit souvent donc effectivement l'empire du milieu, qui est la façon dont les Français du 19e appelaient la Chine, mais on peut se demander si elle, remplit les critères, les caractéristiques propres à un empire. Est-ce que c'est un gouvernement de plusieurs peuples et nations?
Pourquoi l'empire du milieu?
Alors parce que
milieu de l'univers
Alors historiquement,
l'empereur du monde.
Oui, l'empereur en fait recevait un mandat céleste dans la Chine impériale, Et donc, c'était le pays du milieu, Zongo. D'une certaine manière, pour prendre une analogie européenne, plus on s'éloignait du centre qui, lui, était civilisé, donc avec ce mandat céleste et cet empereur, moins on était civilisé. Donc, c'est vraiment quelque
chose...
La
notion de barbare, finalement, s'inscrit aussi dans cette vision-là des choses.
C'est exactement l'idée. Et donc, on peut voir, effectivement, que dans l'histoire, la Chine, en s'étendant et en étendant son pouvoir à la fois temporel et spirituel, était un empire. Quand on regarde aujourd'hui, techniquement, est-ce que la Chine remplit la logique de distinction entre la citoyenneté impériale et les peuples ou les ethnies? La réponse est oui. En revanche, les Han représentent plus de 90% du pays, et donc on peut se dire que même si la Chine remplit techniquement cette condition sine qua non de l'empire, qui est la distinction véritable entre citoyenneté et nationalité, elle n'est pas un empire. De plus, la Chine n'est pas en extension territoriale. On parlait de l'Ukraine, on parlait de l'Abkhazie, de l'Ossétie, on a parlé aussi de la Crimée. Là, on a véritablement affaire à un empire qui est en train de s'étendre. Dans la Chine, même avec l'initiative de la nouvelle route de la soie, qui est à la fois par mer et par terre, il y a une ambition économique, mais il n'y a pas, à ma connaissance, véritablement d'ambition territoriale et de prendre un contrôle territorial de pays ou de morceaux de pays ou de nations à ce jour.
Mais quand vous dites ça, est-ce que votre notion d'empire n'est pas un peu datée par rapport aux nouveaux critères de la puissance? C'est-à-dire que, hors de la question de l'expansion territoriale, est-ce que, à travers les routes de la soie, à travers les positions que la Chine est en train de prendre en Afrique, est-ce que ce n'est pas une façon d'étendre sa domination autre que celle classique de l'expansion territoriale?
Alors, je pense qu'il y a donc c'est ce que les anglo-saxons distinguent, on en a discuté tout à l'heure, effectivement, le hard power et le soft power. Donc le hard power, c'est effectivement utiliser les armées, le pouvoir dur. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine, comme les États-Unis d'ailleurs, sont dans une logique, je dirais, d'influence économique, octroi des prêts en Afrique, financent des infrastructures, envoient leurs entreprises. Donc ça peut être effectivement une influence, mais en aucun cas il y a de contrôle territorial assorti.
Alors est-ce que, en l'absence de contrôle territorial, les risques de conflits et d'affrontements militaires sont minorés parce que les modes d'expansion et d'influence ne sont plus ou moins de l'ordre militaire et territorial?
Alors pour moi, la puissance, en fait, d'une certaine manière, est autre que l'organisation en nation, en empire. En fait, la puissance, j'irais, elle tient d'elle-même en phénoménologie. On pourrait, j'imagine, la caractériser en disant qu'elle est, j'irais, autosuffisante. Donc le fait d'être présente ne dit rien qu'on a affaire à une nation ou bien un empire. Donc pour moi, c'est quelque chose à distinguer. Ce qui est clair, c'est que pour moi, nous devons respecter le droit international. Et là, c'est la seule règle à suivre, à mon avis, pour la France.
Alors si le respect du droit international est... si le droit international est évidemment à respecter, bien évidemment, ça nous amène à évoquer la question de l'Ukraine, de la légitimité des uns et des autres. Mais pour en revenir à la Chine, Ludovic, est-ce que vous voyez la Chine comme un empire? Première question. Et deuxième question, on évoque souvent Thucydide et l'affrontement entre Athènes et Sparte à propos de leurs alliés. Donc est-ce que vous considérez que la Chine est un empire, et est-ce que vous considérez que, avec votre regard d'historien, nous entrons dans une phase extrêmement délicate de l'histoire de l'humanité, avec un risque d'affrontement entre un empire qui monte et puis un autre qui peut-être est, je dis bien peut-être, sur la voie du déclin?
Alors, je voudrais en particulier m'intéresser au terme très juste que vous avez employé, un empire qui monte, en tout cas le verbe monte, monter. Pourquoi cela? Je prends un exemple très simple. Dans le cadre français, dans les programmes scolaires, à la fin du siècle dernier, dans les années 1990, nous évoquions, sur le plan asiatique, sur le plan économique, on évoquait d'abord en première ligne le Japon, puis les dragons asiatiques, Corée du Sud par exemple, ou encore Taïwan, et puis les bébés tigres, en troisième niveau, avec par exemple les Philippines, voilà, mais un troisième niveau et plus en deçà. Et il y avait un quatrième espace, une quatrième ligne, on ne savait pas très bien où placer cela, la Chine populaire, régime communiste. Mais comme si la Chine était hors jeu, pratiquement.
Malgré livre de perfide.
Oui, enfin, quand la Chine s'éveillera, oui. Mais donc, quatre niveaux. Japon, dragon asiatique, bébé tigre, et enfin la Chine qui était seule.
Terre inconnue.
30 ans après, qu'est-il advenu? Tout a été largement bouleversé. Il y a finalement Hong Kong intégré, 1997, enfin intégré si on peut dire, en tout cas avec quelques difficultés. Le Japon, oui, une puissance économique, c'est vrai, mais comparé à la Chine aujourd'hui, c'est sans commune mesure en un sens. Et donc, le rapport de force économique en Asie s'est complètement inversé, en tout cas la perception qu'on en a. Donc un bouleversement en un tiers de siècle, simplement, tout comme par rapport à Moscou, si on peut faire un parallèle. Qui aurait parié en quelque sorte sur Moscou, en pensant que après 1991, cette défaite en rase campagne, comme le disait un général soviétique de l'époque, enfin anciennement soviétique, aujourd'hui c'est Moscou qui est à nouveau sur le devant de la scène avec la question ukrainienne que vous évoquiez, donc un bouleversement qui s'est produit. On pensait que c'était la Pax Americana à la fin du XXe siècle, 30 ans après, par certains côtés Pax Americana, oui, mais en même temps Moscou et Pékin ont su tirer leur épingle du jeu.
Alors, ont tiré leur épingle du jeu, mais est-ce que le jeu auquel nous assistons, un peu comme des spectateurs qui n'ont plus beaucoup d'influence, le jeu qui va advenir va mettre finalement Moscou dans les bras de l'Empire chinois, alors qu'on connaît leur opposition en fait irréductible depuis longtemps. Donc là, on est dans une alliance de circonstances, mais est-ce que entre l'ours russe et puis le nouveau tigre chinois, on est là dans une alliance impériale, mais un peu contre nature?
Peut-être contre nature, mais en même temps, l'histoire a déjà montré par le passé que voilà, il en existait d'autres, il y en a eu d'autres. Et du côté, on va dire occidental, en tout cas du côté français, on n'a peut-être pas nécessairement toujours perçu les enjeux. On pense notamment du côté français que voilà, on est aux premières lignes, qu'on peut l'être. Souvenons-nous notamment de ce que disait un ministre allemand des Affaires étrangères dans les années 1980, Hans Dietrich Genscher, qui à propos de la France dit en substance la phrase suivante. Quand la France cessera-t-elle de voyager en première avec un billet de seconde?
Et Emmanuel, ce billet de seconde de la France, tel que en parlait Genscher, le ministre libéral des Affaires étrangères, mais qui a joué un rôle éminent au moment de la chute du mur et dans ses suites. Vous qui militez avec force conviction pour que la France ne soit pas en seconde classe, mais tienne son rang dans l'affaire ukrainienne, la France et ses alliés européens ou ses alliés de l'OTAN donnent le sentiment d'être complètement ralliés aux vues américaines. Pas des vues impériales, si j'ai bien compris, mais enfin... Sont dans la mouvance atlantiste. Et donc, question pour vous, dans un autre monde, dans un univers où la France serait souveraine, quel serait son jeu dans cette dramatique des empires?
Je pense qu'il faut commencer par le droit international actuel et l'intangibilité des frontières. À partir du moment où il y a violation donc, d'une frontière, pour moi, ce serait le rôle de la France en étant attachée à ce droit international, comme elle l'a montré aussi lors d'opérations jugées illégales, notamment en 2003 avec les États-Unis en Irak, de revenir à ce droit. Donc il y a violation des frontières, il y a une attaque de la Fédération de Russie, et en soi, ça n'est pas acceptable. Donc après, je ne suis pas dans les négociations, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas le pouvoir ni rien, donc je ne peux pas vous dire que faire ou ce qu'on ferait. Mais en soi, ça ne me semble pas acceptable.
Alors, indépendamment, dans ce cas-là, du conflit ukrainien, mais votre mouvement politique s'inscrit quand même dans peut-être ce qu'on peut appeler la mouvance souverainiste, et en tout cas fait référence à la fois à la longue histoire de la France et puis à la dynamique, ou en tout cas à la vision gaullienne des choses. Est-ce que la France peut ou pourrait redevenir un petit peu le chef de file du peloton des nations qui veulent vivre indépendantes? C'est-à-dire que le vieux rêve gaullien peut-il, en ce 21e siècle, être ressuscité? Et si oui, à quel prix? On a évoqué tout à l'heure la relation entre solidité intérieure et politique extérieure. Et donc, est-ce que nous sommes dans le rêve? Est-ce que nous sommes dans l'utopie? Ou est-ce que nous avons, malgré tout, parce que c'est une raison d'être aussi de cette émission, est-ce que nous avons malgré tout des raisons d'espérer?
Je pense qu'il faut garder effectivement l'espérance. Ça, c'est une évidence. Ensuite, l'histoire nous prouve qu'il y a des retournements par moments qu'on ne peut pas imaginer. Et si on parle de liberté de la France et de répondre à son identité profonde, je pense que ça transcende largement le fait d'être en première classe ou deuxième classe, d'être en tête ou derrière. C'est juste répondre à une aspiration profonde. Et aujourd'hui, je pense que le peuple qui est en tête dans cette liberté des peuples et des nations sont plutôt les Britanniques. Ils ont montré récemment qu'ils étaient capables de reprendre leur liberté.
Malgré leur implication forte dans le conflit ukrainien, qui nécessite aussi là un retour dans l'histoire et à regarder de près quelle a toujours été la vision anglo-saxonne de la Russie.
En fait, c'est tout à fait logique, si vous voulez. Si la France, d'une certaine manière, a toujours eu affaire aux empires allemands qui ont débordé en France en 1870, en 1914, en 1940, en fait, l'identité profonde de la France a été de lutter pour la liberté et donc, par conséquent, contre l'empire allemand. Les Russes ont eu de leur côté affaire, les Anglais ont eu affaire aux Russes pendant leur histoire, à la fois en Afghanistan, sur les bordures de leur empire. Donc ils ont une expérience de ce monde russe.
Mais ils ont choc de deux empires.
Oui. Alors pour moi, c'est une thalassocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté en fait de prendre la possession de certains pays, notamment par la partie économique, mais il n'y a pas eu le critère qui en fait un empire, qui sont pour moi la continuité territoriale et aussi la citoyenneté. Donc la citoyenneté n'était pas la même.
Donc vous donnez quitus, d'une certaine façon, aux thalassocraties, d'être peut-être un peu plus moral dans leur dimension, au motif qu'ils ne sont pas dans la domination territoriale, mais plus dans la domination économique.
Alors, ils ont été dans la domination territoriale. D'ailleurs, on parlait souvent de possession, mais il ne s'agissait pas d'un empire, au sens où il n'y avait pas d'une citoyenneté partagée entre tous les citoyens du dit empire. Ensuite, les maires sont suffisamment instables, et de toute façon, ces empires se disloquent extrêmement rapidement.
Alors, vous avez cité le mot de thalassocratie. Je me tourne vers Ludovic, parce que thalassocratie nous amène à considérer les écoles géopolitiques britanniques et allemandes et aussi américaines, avec Mackinder, avec l'amiral Mahan, sur la question d'une espèce d'opposition ancienne, actée, quasi fondée par la nature des choses entre les puissances continentales et les puissances maritimes. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous validez la légitimité de cette approche qui reprend des théories anciennes, et d'autre part, si vous les validez, est-ce que vous considérez qu'elles ont un point d'application avec le conflit ukrainien aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'il y a une ancienneté, si on pense au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, avec Athènes et Sparte, cette rivalité à laquelle vous faites allusion. Ça perdure à travers les siècles. Rule Britannia, on a bien pensé que voilà, les couleurs britanniques régnaient sur le monde, dominaient le monde, c'est juste. D'une certaine manière, on voit qu'aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, mais depuis en gros la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis règnent en maître sur le monde par un certain nombre de, entre guillemets, porte-avions avancé ici ou là. Quand je dis porte-avions, entendons-nous, à la fois au sens...
Mais les deux, voilà. À la fois leurs 11 groupes aéronavals, enfin leurs 11 porte-avions, puis voilà. Au plan territorial...
C'est dans ce sens-là que je voulais dire aussi porte-avions, ouais. Voilà, vous m'avez bien compris. Donc effectivement, il y a autant d'avancées. Alors, puisqu'on en parlait aussi l'autre jour avec Emmanuel Lynch, est-ce que la France se situe sur le même plan? Par certains côtés, peut-être, mais dans une dimension quand même, un rapport de force tout à fait différent, me semble-t-il.
Ah, Emmanuel défend l'idée, enfin, d'espèce d'effet miroir entre États-Unis et France, au sens du projet universel que ces deux nations portent. Je ferme la parenthèse, mais c'est bien ça votre...
Tout à fait, c'est la logique de l'universalisme, oui, qui est ancien en France, notamment lié au catholicisme. Donc il y avait une logique universaliste aussi, hein, de partager cette foi, même en ayant des terres et des nations différentes. Donc ça, c'est une évidence. Et ensuite, le projet révolutionnaire, même s'il était sur la base de la régénération d'un homme nouveau, est quand même un projet universel. La deuxième, j'irai, exploration coloniale de la République, c'est bien pour aller porter ces lumières révolutionnaires à tout un tas de pays. Et aux États-Unis, il y a la même prétention universaliste. Donc je pense qu'il faut toujours se méfier. Quand on critique les États-Unis d'Amérique, c'est souvent une critique qui est valable pour la France, parce que la France et les États-Unis ont des, j'irais, une tradition intellectuelle
Rappelons-nous Benjamin Franklin, lors de son séjour en France et de ses liens avec un certain nombre de cénacles français.
On est typiquement pas sur une logique ethnique. Vous savez qu'en Allemagne, en fait, la logique initiale et nationale était une logique ethnique, et ensuite impériale. Donc les Allemands, c'est d'abord une question d'ethnie. En France, ça n'a jamais été le cas.
Ce qui pose aussi le problème de la cohésion d'une société quand elle est multi-ethnique et par quoi elle peut être soudée si, en l'absence de toute transcendance. Donc c'est la question aussi, quelle transcendance pour souder un peuple à l'époque du relativisme moral ? Vraie question à laquelle aujourd'hui on n'a pas beaucoup de réponses. Alors je reviens vers Ludovic. Nous évoquions la question des États-Unis. Vous évoquiez Sparte et Athènes. Donc pour reprendre notre propos initial concernant des crises largement indéchiffrables, faute de culture historique, est-ce que donc pour vous, nous sommes dans une phase d'affrontement des empires par rapport au regard que vous, historien, vous portez sur des siècles d'histoire?
Oui, un affrontement. Alors, puisque vous évoquiez la question de l'Ukraine, effectivement, l'Ukraine était un pays, est un pays qui finalement était l'objet quand même d'un certain nombre d'investissements de tous ordres, aussi bien sur le plan économique, par notamment des hectares et des hectares qui ont été acquis ces dernières années, par des intérêts étrangers, américains notamment. Mais il y a aussi, on en parle peu parfois, mais de ces laboratoires biologiques qui ont été implantés, ces biolabs. Et ce n'est pas tout à fait sans raison dans un pays qui est donc avec un régime finalement, il faut bien le reconnaître, mafieux, même si certains veulent mettre en avant l'idée qu'il faut défendre les frontières de l'Ukraine, on peut le comprendre, mais il n'empêche que le régime est ce qu'il est depuis quelque temps. Et l'avantage d'un tel régime, c'est pour certaines sociétés, certaines entreprises occidentales, c'est de pouvoir finalement réaliser des implantations, donc de laboratoires biologiques notamment, dans un état où justement on ne va pas contrôler ces entités. Ce qu'on n'aurait pas nécessairement pu faire de la même manière, en tout cas, tant du côté britannique qu'américain ou encore français ou ailleurs. Donc il y a une certaine commodité. Et ce qui explique sans doute, commodité à vouloir faire en sorte que perdure un tel état avec un tel régime. Pour certains intérêts occidentaux. Et ce qui fait que ça explique peut-être pour une part certains soutiens dont bénéficie le régime de Zelensky aujourd'hui du côté occidental.
Alors, Emmanuel, je sens que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Ludovic. Vous tenez ferme sur la question de l'intangibilité des frontières et donc tort à celui qui met en cause cette intangibilité, même si du côté du grand allié américain, on peut aussi... constater que ce respect des frontières n'a pas toujours été aussi strict qu'on pourrait l'imaginer.
Mais certes, les États-Unis ont été actifs sur le plan international pour faire valoir ce qu'ils pensaient être le bien, parce que dans leur logique universaliste, comme en France, on est toujours en train de rechercher le bien et d'expliquer pourquoi ce serait bien. Mais je pense que il faut revenir à Brzezinski, au grand échiquier en 1997. Pour l'Amérique, l'enjeu principal, c'est l'Eurasie. Et pour Brzezinski, il considère que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Donc comme l'objectif est justement d'éviter la reconstitution d'un empire central en Eurasie, il faut avoir une politique, agressive.
Alors, politique agressive, ce qui veut dire aussi qu'on peut pousser l'adversaire à la faute pour lui prouver que juridiquement, il a tort, et ça rappelle... d'autres propos de politique intérieure en France en 1981, on peut avoir juridiquement tort, mais politiquement, on peut avoir quelques raisons pour justifier son action.
Alors l'Ukraine, comme je l'ai expliqué dans cet article, c'est une partie regarde vers l'Occident et une autre petite partie vers l'Orient. Donc on a affaire à une marche d'empire. L'étymologie d'Ukraine d'ailleurs signifierait marche ou frontière, hein, déjà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui est repris ici ou là. Et de toute façon,
c'est un constat, de toute façon, au sens géographique, oui. C'est un constat, oui. On est dans les marches, dans les confins.
Tout à fait. Et pour les États-Unis d'Amérique, en fait, et pour Brzezinski en particulier, l'Ukraine est un pivot géostratégique, donc et géopolitique. Donc étant un pivot, comme l'Azerbaïdjan par exemple, ou bien l'Ouzbékistan, c'est un pays qui mérite toutes les attentions. Et donc le droit international pour moi est suivi. À partir du moment où un État est souverain, il a la liberté de faire ce qu'il entend. En revanche, il faut quand même prendre en compte qu'il y a un voisin encombrant, grand, un empire, et qu'il faut prendre en compte aussi cette proximité.
D'où un réalisme nécessaire qui devrait amener quand même à tempérer des positions parfois excessives et manichéennes par rapport à la Russie, dont on peut regretter que certains ne se souviennent pas qu'elle est à parité nucléaire avec les États-Unis. Et que si le conflit devait perdurer et notamment toucher à la Crimée, on peut craindre que la Crimée, attaquée par les forces ukrainiennes, devienne un casus belli de niveau supérieur. Je suis toujours frappé par les discussions de plateau où jamais cette question-là est évoquée. On fait grosso modo comme si on était en 1915-1916, les drones et peut-être les F-16 en plus, mais en oubliant à l'horizon les mégatonnes qui sont au-dessus de nos têtes. Donc, est-ce que vous considérez quand même qu'on manque de prudence, c'est-à-dire que le respect du droit international, je vous entends bien, Emmanuel, est nécessaire, mais le réalisme en politique suppose aussi d'apprécier les forces et faiblesses de l'adversaire. Et en l'occurrence, quand l'adversaire, entre guillemets ou pas, est doté de la puissance nucléaire qu'on connaît, le réalisme devrait nous obliger à quelque prudence, non ?
Ce n'est pas la raison pour laquelle, au sommet de Bucarest en 2008, l'OTAN a décidé de ne pas intégrer l'Ukraine et de dire « l'Ukraine intégrera l'OTAN, mais plus tard ». Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, pour prendre un anglicisme, il y a eu un deal après la guerre froide, notamment en 1994, entre les Anglais, les Américains et les Russes. Donc les armes nucléaires reviennent donc, dans la Fédération de Russie actuelle en échange de la liberté du peuple ukrainien.
Alors cette liberté aujourd'hui peut-elle aller jusqu'à l'adhésion à l'OTAN sur les marches de l'Empire? Parce que là je me tourne de nouveau vers Ludovic Laloux, mais est-ce que qu'on le veuille ou non, quand on prend en compte la dimension impériale d'un État, on est obligé par réalisme de tenir compte de ces marches, parce que tout empire a des marches, et on sait que les marches sont des lieux de crise tout au long de l'histoire. Donc est-ce que vous, avec votre regard d'historien toujours, vous considérez que l'adhésion un jour de l'Ukraine à l'OTAN est une chose absolument légitime?
Alors si on se place...
Pleine de dangers.
Si on se replace dans une perspective historique, du côté de Moscou en particulier, c'est qu'il y a eu finalement, grosso modo, des défaites, que ce soit avec la question du Kosovo. L'allié serbe était quand même net du côté de Moscou. Il y a eu aussi la question de la Libye au début du XXIe siècle, à l'époque de Nicolas Sarkozy, où les Russes ont perdu pied en quelque sorte. La Syrie, c'est peut-être un peu moins net, mais
ils sont rétablis.
C'est le cas, voilà, effectivement. Mais il y a eu aussi finalement l'OTAN qui a progressé jusqu'aux frontières même de la Russie, et ce n'est pas sans poser question. Et ce qui explique que, acculé en quelque sorte, humilié, devrais-je dire même, eh bien, Moscou réagit en se disant, voilà, c'est le dernier rempart. Si on abandonne ici ou là, après, c'est le territoire même de la Russie. Alors, pour terminer pour mon propos, c'est qu'on pourrait s'étonner, alors que le conflit n'a pas commencé le 24 février 2022, il était déjà antérieur, notamment le 2 mai 2014, avec la maison des syndicats à Odessa. Et ce qui s'est produit, les massacres qui sont produits, voire des éléments antérieurs. Mais aujourd'hui, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la paix? Mais ce qui est assez curieux, c'est que du côté de l'Union européenne, du côté français notamment, ce n'est pas le cas. Ainsi, par exemple, le 17 février dernier, à Munich, le président français Emmanuel Macron indiquait que aujourd'hui l'heure n'est pas au dialogue, textuellement. Et puis on a eu ces jours derniers, le 5 mai 2023, Josep Borrell Fontelle, qui en fait... qui est commissaire européen et qui disait que ce n'est pas le moment d'avoir des conversations diplomatiques sur la paix. Et en revanche, c'est une surenchère de l'armement.
Eh bien, il nous reste une minute pour conclure. Je recevais aujourd'hui Ludovic Laloux avec Emmanuel Lynch pour évoquer les enjeux stratégiques de l'époque médiévale à nos jours. Nous avons beaucoup parlé des logiques impériales, nationales et de la question ukrainienne. Nous avions entamé cette émission avec une double citation de Paul Valéry, « Ce qui est simple est faux ». Ce qui est compliqué est inutilisable, et une observation d'un ancien chef d'état-major des armées qui nous disait que les crises sont devenues largement indéchiffrables pour nos sociétés démocratiques. Et en tout cas, moi, je vous remercie tous les deux d'avoir contribué effectivement à montrer que quand on regarde l'histoire de près, tout ce qui est simple est faux, c'est-à-dire que ce qui est peut-être trop simple et faux, parce que l'histoire est complexe, mais que quand on a une vision compliquée des choses, on ne peut en tirer aucun enseignement, et que votre ouvrage et notre conversation aujourd'hui a permis de démêler un certain nombre de choses, et l'ambition que nous avions de fournir des éléments d'éclairage, même si on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour la question ukrainienne, eh bien je crois que nous avons contribué à éclairer le débat. Et en tout cas, je vous remercie très vivement tous les deux. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Merci également.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardeau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 22 mai 2023 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.